Avant de vous embarquer vers l'épisode du jour, je voudrais vous reparler de Juliette, dont vous avez écouté le nouveau départ dans l'épisode 24. Ce qui m'avait marqué dans son histoire, c'est comment le besoin de se sentir utile dans son job l'a frappée comme la foudre pendant sa grossesse. Aujourd'hui, son travail a du sens pour elle, puisqu'elle est employée par Tridom, une société italienne d'agroforesterie. En allant la rencontrer à Florence, Tridom m'a proposé de devenir partenaire de Ciao Paris et de soutenir les 3 prochains épisodes. Je vous avoue que j'ai été vraiment très contente parce que, comme vous le savez peut-être, Ciao Paris est un projet à la fois personnel, puisque au départ je l'avais créé pour m'aider à quitter Paris, mais aussi professionnel puisque je me suis reconvertie dans le podcast et que j'autofinance le projet depuis un an. Mais la seule vraie raison qui m'a fait accepter cette proposition, c'est le message que porte Tridom. Celui que planter des arbres est essentiel à la protection de la biodiversité, des systèmes fluviaux et permet de lutter contre l'appauvrissement des sols. Avec Tridom, un arbre est bien plus encore, car ils sont plantés en partenariat avec des ONG locales et des petits exploitants agricoles. Ces arbres apportent donc une sécurité alimentaire ainsi que des revenus supplémentaires aux communautés qui en ont le plus besoin. Je vous invite vraiment à aller sur leur site internet pour plus d'informations sur leur projet, tridom.fr, TREEDOM.fr. Et grâce au code CIAOPARIS15, tout attaché, vous bénéficierez de 15% pour tout arbre acheté. Vous retrouverez le lien vers leur site dans la description de l'épisode. Merci à Tridom de monter à bord de l'aventure Ciao Paris. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
Je dis au revoir à certaines choses du passé et je sens qu'effectivement, peut-être je suis plus prête à ce que le présent rentre. Et à ce moment-là, ben je me sens plus légère. En fait, j'avais décidé de ne pas avoir de plan et de ne pas me dire mon but, c'est ça. Parce que comme justement je voulais créer une rupture, je me disais si la Aurélie d'aujourd'hui, elle décide de ce qu'elle va faire, comment je laisse la possibilité de renouveau ?
Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire, enfin, quitter Paris. Quand j'ai enregistré cet épisode, je rentrais de Toulouse où j'avais visité pour la première fois la maison que j'y loue. Et aujourd'hui, j'enregistre cette introduction depuis cette fameuse maison où je viens de m'installer. Moi qui ai souvent tendance à rabrouer mes rêves et mes envies à grands coups d'arguments raisonnables, rencontrer Aurélie Delahaye m'a fait un bien fou. Parce qu'Aurélie, c'est une utopiste et la raison pour laquelle elle a quitté Paris, c'était pour réinventer ses rêves et se retrouver. Elle est l'auteure de « Embrasser l'inconnu » paru en 2019 aux éditions Anne Carrière, où justement elle raconte comment elle a quitté Paris, et de « Tu veux vraiment t'installer à la campagne » paru chez Jouvence cette année. J'ouvre une petite parenthèse pour vous remercier d'être si nombreux à vous être inscrits à la newsletter mensuelle qui va bientôt arriver dans vos boîtes mail. Et si ce n'est pas encore fait, le lien est dans la description de l'épisode. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, le nouveau départ d'Aurélie Delahaye, 39 ans, qui a quitté Paris en 2015, un peu perdue, pour mieux se retrouver au fil de ses voyages.
Alors, je viens d'arriver à la gare de Montpellier. Je suis un peu soufflée parce que j'ai monté 3 escaliers. Hein. Grande sportive. Et je viens ici aujourd'hui pour rencontrer Aurélie. Elle a quitté Paris il y a quelques années sans savoir où elle allait. Et aujourd'hui, elle s'est établie à la campagne. Et il n'y a pas très longtemps, elle a raconté son histoire dans un livre qui s'appelle « Tu veux vraiment t'installer à la campagne ?» qui est super. Ça lève pas mal de freins, pas mal d'idées reçues. Puis c'est bien écrit, c'est rigolo. Et ça fait du bien, je trouve, aussi d'avoir ce genre d'ouvrage. Parce que pour tous ceux à qui ça fait peur, et surtout tous ceux à qui ça fait envie, ben, ça fait déjà un premier retour d'expérience qui est facilement accessible. Ah ben voilà, elle m'appelle. Oui, Aurélie, coucou.
Coucou.
Alors, je suis juste devant la gare de Montpellier.
Moi, je suis en fait la sortie qui est proche de la voie F.
Coucou.
T'as une valise?
Ben oui, j'ai une valise parce que j'étais 3 jours à Toulouse. Hop là.
Allez, hop.
Allez, c'est parti.
J'ai un cadeau pour toi.
Oh, mais c'est hyper gentil.
C'est ça.
Ah, trop bien, bah, je vais pouvoir le lire.
J'ai fait une dédicace avec la libraire.
Oui.
Et donc, je lui ai dit, attends, moi aussi j'en achète un.
Le 24 mai à Montpellier, pour toi Valérie, qui vient d'embrasser l'inconnu en disant ciao Paris, sur les ondes et dans la vie, belles aventures Aurélie. C'est ça, exactement. Toi, normalement, t'habites dans le Limousin.
Ouais.
Mais on s'est retrouvés à Montpellier
parce que en ce moment, comme tu viens de sortir, tu veux vraiment t'installer à la campagne, tu en profites pour faire une tournée des librairies.
En fait, j'ai 3 livres avec lesquels j'ai pas eu l'occasion d'aller rencontrer les gens. Donc ouais, avec les 3 livres, je pars faire un peu dans toute la France le tour des librairies.
Et alors, où est-ce que tu m'emmènes? Parce que là, on est en train de sortir de Montpellier.
Ouais.
Et on est dans la campagne.
Je t'emmène dans un endroit avec une jolie vue qui ressemble pas mal aux Cévennes, mais on est juste en dessous, on est à la porte des Cévennes.
Ouais.
J'aime beaucoup les Cévennes et j'aime beaucoup ces endroits-là un peu cachés. Alors, enfin, on sera en bord de route, mais tu verras, quand tu regarderas en face de toi, tu n'auras pas l'impression qu'il y a une route qui passe pas loin.
Et c'est un endroit qui est important pour toi?
Alors non, je viens de le découvrir.
Ah!
Après, il est important pour moi parce qu'il ressemble à plein d'endroits où justement je me suis arrêtée quand j'ai vadrouillé. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai dit « Ok, en fait, c'est là qu'il faut que j'emmène Valérie. »
Ah, trop bien.
Parce que ça, ça ressemble à mon voyage qui m'a fait m'installer à la campagne.
Génial. Ah, j'ai hâte qu'on y soit.
Hop.
C'est splendide, hein?
Avec des vignes là-bas.
Des vignes, des cyprès, un petit château. La maison avec les cyprès à côté, ça me... Il y a ça chez ma grand-mère, ça me rappelle vraiment mon enfance. C'est un peu une madeleine pour moi, la maison avec les cyprès. Et alors, et toi, ton histoire avec Paris, elle a commencé quand?
Puis j'habite Paris depuis que j'ai 15 ans. Moi, j'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup parce que ça m'a offert la liberté de tout faire à pied. Tu vois, quand t'es ado, je traversais tout Paris à vélo, je voyais des copains, je faisais de l'impro, je buvais des coups, j'avais mes cafés préférés, les quartiers que j'aimais bien, les quartiers où j'allais me balader à pied quand j'avais le blues, tu vois, les quartiers qui m'aidaient à me réchauffer le cœur. J'adorais aller au bord de la Seine, du canal Saint-Martin. Et puis parfois, c'était aussi juste me perdre dans Paris. À un croisement, je prenais toujours soit la rue la plus paumée, soit celle qui me tentait, quoi. Non, donc j'aimais bien Paris.
Paris, c'était une ville qui pouvait être réconfortante, en tout cas.
Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi... j'ai vécu longtemps célibataire. Et Paris, c'est une ville où, en fait, tu te sens jamais seule. Tu vois les gens aux fenêtres, tu vois les lumières. En fait, j'adore imaginer la vie des gens quand je vois juste une fenêtre avec de la lumière et j'imagine ce qui se passe et je me racontais un peu des histoires là-dessus. Donc Paris, c'est ça aussi. C'est sûr qu'à la campagne, enfin, c'est pas pareil.
T'as vécu à Paris jusqu'à quel âge?
Jusqu'à mes 33 ans.
Et entre tes 15 ans et tes 33, comment ton rapport avec Paris évolue au fil aussi des changements, j'imagine, que t'as rencontrés dans ta vie?
J'ai beaucoup déménagé. En fait, j'ai mis du temps à trouver le quartier qui me ressemblait. Au début, j'étais dans l'Ouest parisien, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout moi, quoi. Mais j'ai fait pas mal d'endroits.
Et c'était quoi ton quartier finalement de cœur?
C'était le 11e. Et là, j'y suis restée. Pour le coup, je déménageais plus, heureusement, parce qu'il n'y avait plus aucun ami qui avait envie de m'aider à déménager. Parce qu'en général, j'étais au 6e sans ascenseur, tu vois. Parce que c'est ça, hein, Paris, tu vis dans maximum 30 mètres carrés. Et donc voilà, j'étais au 6e sans ascenseur et j'étais dans le 11e. Et là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y avait plein de petits commerces là où j'étais, des rues étroites. C'était pas loin de chouettes cafés, de chouettes endroits. Toute ma vie était accessible depuis là où j'habitais. Et en plus, j'ai trouvé un travail à 5 minutes en vélo de là où j'habitais.
Et qu'est-ce que tu faisais comme travail à l'époque?
Un des derniers boulots où j'étais, c'est je faisais du théâtre pour les entreprises. On travaillait sur des problématiques comme le stress, la discrimination, la diversité, le suicide, le management, la communication. Et on écrivait des scénettes. L'idée, c'était que représenter les comportements, ça allait aider les gens à prendre conscience de ces comportements qu'ils peuvent avoir les uns ou les autres. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de mettre des pansements. Parce qu'en fait, on peut parler des risques psychosociaux, du comportement des uns et des autres, on peut parler de notre manière de manager, de tout ça. Si à la fin, on parle de ça dans une équipe où ils sont 10 alors qu'ils devraient être 20, le problème, il est aussi structurel, quoi. Et quand j'ai compris que, en fait, ceux qui étaient au-dessus d'eux, ils n'étaient pas prêts à changer les choses structurelles, ben moi, j'ai perdu le sens. Mais au bout d'un moment, ça m'a empêché de me lever.
Quand tu te rends compte de cette incohérence, de cette dissonance, quel âge est-ce que tu as ?
J'ai 31 ans. Et à ce moment-là, je renquis quand même sur une autre expérience. Je quitte cette entreprise, j'en rejoins une autre. Et c'était une entreprise, une start-up, qui aidait les développeurs informatiques à trouver une entreprise où ils sont bien. Mmh. Et donc, de nouveau, ça avait du sens parce que c'était aider les gens à être bien dans leur boulot. Et puis, de nouveau, au bout d'un moment, je perds le sens. Au bout d'un an, 9 mois, 1 an. Et puis, toujours ce truc des pansements. Parce que les développeurs, même si on leur trouve des chouettes boîtes, dans ces chouettes boîtes, chaque boîte a une course à la rentabilité, à la croissance, à tout ça. Et en fait, je commence à remettre en question le monde du travail. Et je me rends compte que finalement, même si je suis tombée sur des gens chouettes et qui m'ont fait confiance et tout, je suis quand même dans l'entreprise que quelqu'un d'autre a créée. Et moi, je me sens bridée au niveau de ma créativité. Et il y a une partie de moi qui a besoin de prendre son envol, quoi. Vraiment, et d'être libre et de faire ce qu'elle a envie et d'y aller. Et que ça fait aussi partie du sens que j'ai besoin d'avoir, quoi. J'avais des envies d'écrire. C'est une envie qui a toujours existé et elle m'habitait de plus en plus. Je me levais tôt, j'allais au café. J'écrivais beaucoup, j'ai écrit beaucoup de débuts d'histoire et il n'y a jamais eu de fin. Ni de milieu d'ailleurs.
T'avais pas le temps ?
C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que j'arrivais pas à faire quelque chose que je remets en question et puis à côté écrire. En fait, écrire, ça englobe tout mon être, quoi. Et si mon être dans la vie il sent décalage, dans l'écriture c'est pareil, quoi. Donc à ce moment-là, je me dis j'arrête. Enfin, le déclic c'est un soir je vais à Nantes dans le cadre de mon boulot et il se trouve que des comédiens avec qui j'ai travaillé dans la boîte d'avant sont aussi à Nantes. On dîne ensemble et ils me disent Aurélie, on te reconnaît plus. T'es éteinte. Je dis ouais, je crois aussi. Ils m'ont dit « Non, mais en fait, faut arrêter, quoi. » Et le lendemain, j'arrête.
Et là, on est à quel moment ?
On est en 2014.
Les réflexions qui émergent de cette décision de quitter la boîte
Alors, au début, c'est « Ouais, du coup, je vais faire mon truc à moi, comme ça, je ferai ce que je veux, tout ça. Je veux faire un blog sur lequel j'aide les gens à trouver un boulot qu'ils aiment. » Parce que j'ai toujours vachement aidé les gens à préparer leurs entretiens parce que je comprends bien le jeu de l'entretien. Et puis en fait, je fais ça pendant un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, de nouveau, je bloque. Et là, je dis, oui, je bloque, évidemment, puisque en fait, c'est un peu hypocrite. Enfin, j'ai pas trouvé, moi, l'entreprise et le boulot qui me convient et je vais aider les autres à le trouver. Et là, je dis, j'arrête tout. J'arrête tout. Cette fois, je vais essayer de faire quelque chose pour apporter de l'espoir, du bonheur aux gens, mais hors cadre de l'entreprise parce que j'y crois plus. Je comprends pas, en fait, qu'on continue à avancer toujours de la même façon, dans les mêmes directions et qu'on se fasse tous du mal.
Ce que tu me décris là, ça me fait penser à une fourmilière. Tu sais, toi, t'es arrêté et t'es là et tu regardes un peu autour de toi et tu te fais bousculer par tous les gens qui sont en mode pilote automatique, genre tout, 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 tu vois.
Alors pourtant, j'ai des amis qui font des choses différentes, qui font des métiers passionnants. Donc, tu vois, ce que j'ai écrit dans Embrasser l'inconnu, c'est que j'étais une rebelle. Je vis dans un monde rebelle par rapport à justement la fourmilière. On est une fourmilière rock'n'roll, nous. Mais au fond, moi j'ai l'impression, oui, qu'on est quand même dans une fourmilière. Même si elle est rebelle, rock'n'roll, tout ça, c'est...
Encore une fois, c'est un pansement.
Ouais, un peu. C'est... Là, ce qui se passe, c'est que je me dis, il faut un changement profond. Une rupture, quoi. Tu vois, une rupture, parce que sinon, je vais retomber sur les mêmes choses. Mon frère me dit « Ouais, il y a un week-end de développement personnel, pas loin de chez moi, si tu veux je t'héberge, viens y participer, ce sera trop bien et tout. » Et dans ce week-end de développement personnel, il y a des trucs qui me saoulent un peu. Il y a plein de choses justes, mais c'est juste, tu sais, la manière, avec plein d'emphase. On s'aime tous, alors que quand tu fais des groupes de travail, les gens se tapent sur la gueule. Enfin, soi-disant, tout va bien et tout. Et en fait, non, t'es dans un cadre humain et de toute façon, l'humain, c'est compliqué, quoi. Mm. Donc bref, mais n'empêche, pendant ce week-end-là, il y a quelques personnes qui me font avoir des déclics. Et notamment, il y a un gars qui dit que lui, il travaille de manière nomade et tous les 3 mois, il change de pays. Et là, moi, je me dis, bah, je vais faire ça. Je pourrais faire un projet et puis avec ce projet, je changerai de pays tous les 3 mois. Donc, je prends un billet pour Berlin.
Ouais.
Et 3 mois plus tard, je prends un billet pour Lisbonne. Sans savoir où est-ce que je vais loger, ce que je vais faire. Et je dis, je vais faire un projet pour rendre les gens heureux. Parce qu'en fait, il y a trop de gens malheureux. Et du coup, il y a plus rien qui me... Enfin, j'ai des amis, mais les amis, c'est pas eux qui t'empêchent de partir, tu vois. Au contraire, les amis te disent, vas-y, fonce. Bon, la famille, elle te dit pas ça, mais la famille, faut qu'elle s'habitue, quoi.
Parce que tes parents, ils sont à Paris, eux aussi?
Ma mère est à Paris, ouais. Ouais.
Et à ce moment-là, comment elle réagit?
Bah, en fait, c'est marrant parce que je dormais chez elle ce soir-là parce que j'avais prêté mon appart. J'ai pris les billets à 1h du matin parce que je savais que le lendemain, au petit-déj, j'allais la voir. Et donc, le lendemain, au petit-déj, je lui dis. Et elle me dit, oh, c'est pas possible. Mais t'es complètement folle. Et après, plus tard, elle me dit, bah, en tout cas, c'est pas comme ça que tu vas trouver un mec. Et ça, j'adore ma mère. Hein. Mais en fait, ses réactions, c'est simplement de l'inquiétude. T'as une fille qui a fait, je sais pas combien d'années d'études, qui a 2 diplômes, une maîtrise en droit des affaires, une des meilleures écoles de commerce de France. Et elle te dit, bah, en fait, je vais partir faire un projet pour rendre les gens heureux à Berlin et à Lisbonne. T'as envie de lui mettre un coup de pied au cul. Je comprends. Et en même temps, elle voit bien qu'elle peut rien faire, quoi.
Mmh. Et toi, est-ce que ça... Enfin, comment ça t'atteint à ce moment-là?
À ce moment-là, ça me réconforte sur le fait qu'il faut vraiment que je parte. Pour pouvoir découvrir autre chose, il faut que je sois pas dans mon environnement familial et amical quotidien, quoi. Mmh. Pour moi, j'étais en train de construire quelque chose, mais je savais pas quoi. En fait, j'avais décidé de pas avoir de plan et de pas me dire mon but, c'est ça. Parce que comme justement, je voulais créer une rupture, je me disais, si la Aurélie d'aujourd'hui, elle décide de ce qu'elle va faire, comment je laisse la possibilité de renouveau? Puisque moi aussi, je vais changer, en fait. Les 2 billets d'avion, ils sont dans 2 mois. Dans ces 2 mois, je vais m'organiser. Et donc, je décide que, d'abord, je vais sous-louer mon appartement. Parce que je me suis dit, bon, c'est bien ta décision sur un coup de tête, mais il fallait que je puisse revenir en arrière. Parce que j'ai un loyer avantageux par rapport à Paris, j'ai une super propriétaire. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah maintenant, il va falloir que je fasse de la place pour cette personne. Et donc, peu à peu, je suis obligée de me débarrasser de la moitié de ce que j'ai parce que je ne vais pas louer un garde-meuble pour garder des choses du passé qui sont déjà à l'intérieur de moi. Elles n'ont pas besoin d'être là partout dans l'appartement, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je lis un bouquin qui s'appelle « Le zen et l'art de tomber amoureux ». Et en fait, ce n'est pas du tout que sur le fait de tomber amoureux. Et dans ce bouquin, ils expliquent que parfois, il faut savoir se libérer du passé pour pouvoir laisser rentrer le présent. Et j'ai beaucoup pleuré, hein, en tout rangeant, en me débarrassant des choses. Et en me débarrassant, j'ai essayé de faire les choses de la manière la plus jolie, la plus écologique possible. J'ai déposé des bijoux dans la rue avec un petit mot dans un sac, en disant, voilà, faites voyager ce petit sac, prenez ce qui vous plaît. Et...
Donc tu dis au revoir à ton passé.
Je dis au revoir à certaines choses du passé. Et je sens qu'effectivement, peut-être je suis plus prête à ce que le présent rentre. Et à ce moment-là, ben, je me sens plus légère. J'ai jeté un sac poubelle entier de carnets, tu vois, que je gardais en me disant, bah oui, mais on sait jamais. On sait jamais parce que là, alors là, j'ai écrit mes états d'âme, là, j'ai écrit des nouvelles, là, j'ai écrit des débuts de romans, là, des machins, des trucs. On sait jamais, faut les garder, quoi. Et en fait, non, c'est pas grave. Je les ai écrits. Maintenant, ils peuvent s'en aller. Et il peut y avoir de nouveaux écrits qui rentrent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon amie Lucille, elle m'emmène faire une randonnée dans Paris. Elle a un petit guide des randonnées insolites dans Paris. Et on passe une journée dans un Paris que j'ai jamais vu, qui est hyper joli, qui est hyper mignon. Et moi qui me sentais déphasée, je me sens de nouveau en phase avec Paris. Et ça m'aide à lui dire au revoir, en fait, de ne pas partir fâchée avec elle, avec Paris. Et à la fin de cette randonnée, et c'est là où je te dis le présent peut arriver, quand le passé est rangé, et ben à la fin de cette randonnée, on s'assoit sur un banc Et là, il y a quelqu'un qui vient nous parler, un vieux monsieur avec un petit sac un peu, un sac en toile un peu pourri. Il commence à nous parler de George Sand. On passe une demi-heure avec lui, on a l'impression d'être sur France Inter, tellement ce qu'il nous raconte, c'est passionnant. Et lui, il est là avec ses pompes crado, et tu sais pas très bien qui c'est, ce monsieur. Tu savais pas mettre de mots sur sa dégaine, et en même temps, lui, il était heureux d'être là, hyper érudit. Et ensuite, il s'en va. Je rentre chez moi, et j'écris sur cette rencontre. Et là est né mon projet. J'allais écrire sur des gens ordinaires que je rencontre dans la rue. Ce projet-là est devenu, au fil des semaines, une galerie de portraits photos et écrits de gens ordinaires et heureux que je croisais dans la rue. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés de lire mes portraits. Certains, ça les a aidés à surmonter la dépression. D'autres, ça les a aidés à préparer leurs examens, tu vois, à tenir.
C'est quoi comme support ?
C'est un blog, une page Facebook, un compte Instagram. Bon, pas vraiment beaucoup, mais un peu. Et par contre, le nom, je ne sais pas d'où il est sorti, je ne sais plus. Il est sorti tout seul. Ordinary Happy People.
C'est un nom anglais ?
Oui, parce que j'allais à Berlin, j'allais à Lisbonne. Enfin, j'écrivais en anglais à ce moment-là. C'était intéressant aussi d'écrire dans une autre langue. Ça m'a libérée aussi. Je ne suis pas forcément très calée au niveau du vocabulaire, donc c'est ça aussi qui était chouette. Ça me forçait à aller vers la simplicité et je pouvais y mettre la poésie que je voulais de manière simple.
Et donc, tu pars à Berlin,
ouais.
Avec ce projet dans les bagages.
Avec l'idée aussi de faire des actions de rue. Parce que moi, je trouve que c'est bien si les choses elles se passent sur Internet, mais c'est aussi bien si elles se passent dans la rue. C'est important, la rue, en fait. C'est là que ça se passe. Donc du coup, j'improvise et je commence à me balader avec un panneau où je dis aux gens de passer une bonne journée. Et aussi, à un moment, je décide d'aller dans des endroits où les gens sont un peu moroses et j'ai un grand panneau jaune et j'invite les gens à sourire. Et là, c'était à Berlin, dans le métro. Il y en a, ils me prennent dans leurs bras. Il y en a, ils m'offrent une coupe de champagne, de Prosecco. Ouais.
Et des actions de rue, elles sont aussi très nourries par, j'imagine, toutes les années de théâtre que tu as faites auparavant.
Bien sûr.
Ça donne l'élan, parce que moi, je serais hyper intimidée, j'oserais jamais, je crois que ça ne viendrait même pas à l'idée, de faire un truc comme ça.
Ah bah c'est sûr.
C'est presque dans une démarche artistique. Ça te porte quand même depuis longtemps, ça.
Mais depuis toujours. Depuis toujours, mais pour moi, en fait, être artiste, c'était quelque chose de très lointain. De pas accessible, c'était pas un métier. J'avais conscience que c'était un métier pour certains, mais je faisais pas partie de ces gens-là, quoi.
Pourquoi ?
Bah, un manque de confiance. Et aussi, de par l'univers dans lequel j'ai grandi. Moi, mon grand-père, c'était dans la vie, il faut travailler.
Et donc là, enfin, tu t'autorises ?
Bah, j'ai fait pas mal d'impro, donc déjà, je m'autorisais sur mon temps perso. Et là, je décide de m'autoriser... sur mon temps pro. Fin...
Et donc là, tu es toute seule à ce moment-là, pendant ce voyage ?
Je suis toute seule, oui. Bah, je suis en colocation. En fait, je vis du chômage. Et donc, je vis avec beaucoup moins que ce que j'ai d'habitude.
Et au bout de ces 6 mois ?
Je décide de dire à ceux qui sous-louent mon appart que je continue. Mais je ne sais pas où je vais. Et là, je croise quelqu'un, un ami, qui me dit « Mais si tu allais à San Francisco, San Francisco, c'est une ville où il y a une émulation artistique, mais aussi une émulation entrepreneuriale. » Enfin, il éveille un truc avec San Francisco et je trouve un billet pas trop cher et sur un coup de tête, je pars à San Francisco. Je vais à San Francisco. On m'avait dit, tu vas pouvoir transformer le projet. Là-bas, il y a l'émulation et tout. J'avais été à San Francisco. Je connaissais cette émulation artistique, de projet, de création et tout. Et en fait, je ne reconnais plus San Francisco. Il y a la Silicon Valley qui est passée par là. Et San Francisco ne ressemble plus à rien, je trouve.
À ce que tu as connu, en tout cas.
Non. Mais... c'est lisse. Il n'y a plus de créativité. Les artistes, ils ont été éjectés de la ville. Je devais rester un peu plus d'un mois et en fait je pars au bout de 3 semaines, un mois, parce qu'il y a les attentats du 13 novembre qui se passent. Et je pleure et je me demande comment on peut en arriver là? J'ai ce sentiment que ce que je fais, ça sert à rien, en fait.
À nouveau?
Oui, c'est un peu comme si tout s'écroulait, quoi. Et puis, peu à peu, cette fois, je me relève. Ça dure pas longtemps, ce sentiment que ce que je fais, ça sert à rien. Je me dis justement, si, en fait, c'est là aussi qu'on a besoin de moi. Et donc, je veux être à Paris pour aller porter mon panneau jaune, mais cette fois, écrire quelque chose de différent et de reconstruire le lien.
Et qu'est-ce que t'écris à ce moment-là sur ton panneau jaune?
J'écris « Commençons par un sourire ». Et jusqu'ici, quand j'avais été à La Défense et j'avais écrit « Souriez, ça pourrait changer votre journée ». Et les gens, ils se marraient, tu vois, ils étaient là, ah ouais, enfin... Et en fait, ça marchait parce qu'ils souriaient, mais ils disaient, mais t'es complètement folle. Et là, cette fois, ils me regardent et ils me disent merci, en fait. Ils me disent, je sens que c'est ça dont on peut avoir besoin.
J'ai souvenir de ce moment, qui est un vrai point de rupture pour moi aussi, et où effectivement, tu perds l'espoir à ce moment. Enfin, moi, j'avais perdu l'espoir à ce moment-là.
Ouais.
Et tu restes à Paris quelques temps après ça?
Je reste un peu à Paris et après, je retourne à Lisbonne. Je me demande ce que je vais faire, justement. Je me demande qu'est-ce que va être la suite, parce que je me sens plus d'avoir un panneau jaune qui demande aux gens de sourire. Vraiment, San Francisco plus les attentats, ça a un peu bouleversé ce que j'étais en train de faire. Et
finalement, tu fais des portraits pour distribuer des petites doses de bonheur, comme ça, gratuitement.
Ouais.
Toi, t'es en filigrane. Quelque part, t'es en quête aussi, toi, de ce qui va te rendre heureuse.
Tout à fait, ouais. Les portraits que je poste pour nourrir les autres, ils me nourrissent aussi. Ces rencontres, elles me nourrissent. Les gens que je photographie, ils me parlent de simplicité, ils me parlent de lien aux autres, ils me parlent de passion, ils me parlent... Il n'y en a aucun qui me parle d'argent, tu vois. Il y en a que je vois, ils vivent de manière très simple et ça va, quoi. Et puis bah, moi aussi, je vis de manière plus simple, j'ai moins de sous et ça va bien. Je commence à me rendre compte que l'équation, elle peut changer. Plutôt que de me dire comment trouver un métier qui me rapporte 2000 euros par mois, je me dis, tiens, où est-ce que je peux trouver un endroit qui, en fait, ne m'obligerait pas à devoir gagner autant, quoi.
Enfin, moi, je le vois plus comme un moment où ça te pousse quelque part à faire évoluer ton projet et aller plus loin.
Voilà, en fait, c'est ça. Ça me pousse à aller plus loin. En fait, je me dis, c'est mignon ce que tu fais, mais... J'ai besoin de nouveau d'une rupture. Et à ce moment-là, je rencontre Hélène et Benoît de Sideways, qui vivent en camion et qui font des documentaires sur des gens, qui font des choses, comment dire, différentes. Enfin, eux aussi, ils véhiculent l'espoir avec des gens qui sont dans des démarches particulières.
Et on peut les trouver sur Internet,
ouais,
j'imagine.
C'est sideways.net. C'est peut-être side-ways.net. Ils ont une page Facebook.
Et comment ils t'aident, eux?
Bah, déjà, on se fait un Skype. Et pendant le... Enfin, on se fait une visio. Et pendant la visio, ils disent... Et si tu continues l'aventure dans un petit camion? Et je dis... Hein? Tu sais, je me marre. Je dis, ouais, mais n'importe quoi. Moi, j'ai jamais fait de camping. Déjà, là, à vivre dans des colocs, j'ai l'impression d'avoir troqué mon confort. Enfin, tu vois, moi, j'étais... Et on raccroche et je regarde des annonces de camions.
Ah oui, direct. Et là, c'est-à-dire que tu dis non, mais en fait, tu le...
Et j'appelle un gars et je lui dis, ouais, je vais venir acheter votre camion.
Ah oui, non, mais... Oh, putain, mais t'es incroyable, toi.
Non, mais finalement, je le fais pas parce que je suis quand même au fin fond du Portugal et le gars, il est en France. Et en fait, heureusement, j'ai pas les sous pour faire ça. Donc du coup, je le fais pas, quoi. Et là, dans la semaine qui a suivi, mais dans la semaine, je te jure, hein, moi, j'ai jamais rencontré de gens qui voyagent en camion aménagé. Jamais. Mmh. C'est un mode de voyage que je connais pas. Enfin, à ce moment-là, j'y connais rien. On est donc fin 2015. Je trouve, 2 jours après ce coup de fil, dans mon salon, une bande de gens qu'un de mes colocs a ramené. Parmi ces gens, il y a un Français qui voyage en camion aménagé. Et qui me dit, vous faites quoi pour le nouvel an? Je lui dis, ah bah, on a organisé une fête, si tu veux, tu peux te joindre à nous. Il me dit, non, moi j'ai bien envie d'aller au bord de l'eau avec mon camion, si vous voulez, j'ai 4 places dedans. Ah d'accord. Et puis je dis, bah non, désolé, c'est pas possible, nous on fait une fête. Et puis finalement, tout le monde décommande la fête, sauf 3 personnes. Et donc 3 plus 8, ça fait 4. Et on l'appelle, on lui dit, bah finalement, oui, on vient avec toi. Fêter le nouvel an au bord de la plage dans un camion aménagé. Et donc je me réveille pour la première nuit de 2016 dans un camion aménagé, alors que j'en ai jamais vu, j'ai jamais dormi là-dedans. On a passé une super soirée, on a fait un feu, On a mangé au bord du feu, on a bu. Il y avait la mère toute la soirée qui nous a accompagnés. Et le matin, quand je me réveille, tout le monde dort et je vois un petit rayon de soleil, donc j'ouvre un peu le rideau. J'ose pas ouvrir la porte pour réveiller personne. Et j'observe ça, je vois la mer, je vois la plage et je me dis « Oh, mais c'est incroyable de se réveiller là !» Et je me dis « Ça doit être chouette de vivre comme ça, dans la nature, tu vois. Elle est là. » Et là, quand même, ça me fait quelque chose.
C'est un premier déclic.
C'est un premier déclic. Et quelques jours après, on attendait qu'un restaurant ouvre. Il devait être 18h30, le resto ouvrait à 19h. On avait froid, je dis « C'est con, on va tomber malade, autant essayer d'aller chez quelqu'un et qui nous abrite une demi-heure. » Et mes amis sont scandalisés, ils disent « Mais on fait pas ça. » Je toque quand même. Et là, la personne qui m'accueille, elle a atterri là parce qu'elle voyage en camion aménagé. Elle est pas du tout portugaise, tu vois, elle me parle en anglais. Et elle a son camion aménagé pas loin. Et en fait, elle s'abrite pour l'hiver. Et elle me dit « Bah rentre !» Je dis « Bah oui, je rentre !» Et je regarde, mes copains, ils ont disparu. Enfin, tu vois, ils ont été tellement gênés que... Donc je rentre et je discute avec elle et elle me parle... On parle de tout ça, de la vie, du voyage, de la vie en camion, mais pas que, des changements, parce qu'elle aussi, elle a fait des grands changements. Et à partir de ce moment-là, tous les matins, je regarde les annonces de camions aménagés.
Je vous dis à vendredi prochain pour écouter la suite du nouveau départ d'Aurélie Delahaye. D'ici là, retrouvez Ciao Paris sur Instagram, à Ciao Paris le podcast tout attaché, Ciao, C-I-A-O, et sur Facebook, via le groupe d'entraide Quitter Paris et changer de vie. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en laissant des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin, chargée de production et d'édition Mahalia Rouilly, montage Héloïse Palivoda, mixage Emmanuel Charret de Skolprod, direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.